Bonjour à tous. Nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui à Station Ozone Sophie Barthélémy, vous êtes conservatrice en chef du patrimoine et directrice du MUSBA, et Margot Wimps, vous êtes conservatrice du patrimoine et responsable des collections 19e et 20e du Musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Nous vous recevons à l'occasion d'une exposition événement consacrée à Jean Dupas, une grande figure méconnue de l'art déco à Bordeaux. Une magnifique exposition auquel est associé un très beau catalogue d'expositions édité aux éditions Sans Égal. La première question, donc, c'était comment est née l'idée de cette exposition qui, je crois, était très attendue par les amateurs bordelais.
C'est toujours la question qu'on se pose, mais comment vous naissent comme ça? Comment surgissent les sujets de vos expositions? Alors, il faut savoir que cette exposition est le fruit d'une longue maturation, d'un travail de recherche de longue haleine qui a été menée sur plusieurs années. C'est un projet, moi, que j'avais en tête déjà pratiquement à mon arrivée à Bordeaux, quand j'ai découvert Dupas dans les collections du musée, puisque le point de départ, c'est la présence d'un ensemble d'œuvres de Dupas au musée, qu'on a cessé d'ailleurs d'enrichir depuis 3 ans maintenant, par des achats en galerie, en vente publique. On a eu aussi des dons par la Société des Amis du musée. Donc le point de départ, ça a été ça. Et puis, il y a aussi au MUSBA cette volonté qui nous anime depuis plusieurs années et qui guide aussi notre politique d'acquisition, c'est de mettre un coup de projecteur, comme là, j'ai la lumière dans les yeux, de mettre un coup de projecteur sur des artistes bordelais qui sont tombés dans l'oubli et qui ont été injustement oubliés par l'histoire de l'art. Donc, je peux citer quelques exemples. Il y a eu Roger Bissière, qui était d'ailleurs un contemporain et un ami de Dupas, qu'il a rencontré à la Villa Médicis à Rome en 2014-2015. Georges d'Aurignac, un autre contemporain de Dupas en 2017. Plus récemment, là, c'était une artiste femme du 19e, là, pas du 20e, Rosa Bonheur, en 2022. Voilà. Et puis, à cela s'ajoute encore une actualité récente, puisque l'année dernière, en 2025, nous avons célébré le centenaire de l'exposition internationale des arts décoratifs à Paris. Il y a eu d'ailleurs une grande exposition au Musée des arts décoratifs à Paris, qui vient de fermer ses portes, là, tout récemment. Et là, on s'est dit, c'est le moment de célébrer Dupas et de l'inscrire dans cette actualité autour de cette date anniversaire, d'autant plus que c'est à cette exposition des arts décoratifs de 25 que Jean Dupas a été repéré par le public, par la critique, puisqu'il a exposé dans divers pavillons, notamment le pavillon de la Tour des Vins de Bordeaux et du Sud-Ouest, et à l'hôtel du collectionneur du grand décorateur ensemblier Jacques-Émile Roulman, avec lequel il va collaborer à plusieurs reprises par la suite.
Une autre question que je voudrais vous poser, c'est le rôle de Robert Coustet. On n'en a pas parlé, mais c'était un rôle. Robert Coustet était très important dans la redécouverte de l'école bordelaise et de Dupas.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, dans la préface du catalogue que j'ai rédigé, j'ai d'ailleurs en préambule, j'ai mis à la mémoire de Robert Coustet. D'abord, ce premier noyau, là, cet ensemble d'œuvres de Dupas, c'est des œuvres que Robert Coustet nous avait donné et déposé, et qui sont ensuite ont fait partie de ce legs très généreux qu'il a consenti au musée en 2020. Donc ce sont des œuvres qui sont pour la plupart des œuvres de jeunesse qui datent de sa période romaine. Il y a aussi la très belle esquisse de la gloire de Bordeaux, ce magnifique décor que Dupas a réalisé à la bourse du travail à Bordeaux. Et Robert Coustet s'intéressait beaucoup aux artistes bordelais, aux anciens, 17e, 18e, 19e, mais aussi à ceux du 20e siècle et même à des artistes même beaucoup plus contemporains. Et c'est à lui que l'on doit effectivement les premiers travaux, les premières études sur Dupas et sur cette école de peinture bordelaise de l'entre-deux-guerres qui a été longtemps sous-estimée et peu étudiée avant, on va dire, la fin des années 80. Et c'est vraiment Robert Coustet, avec d'autres aussi, mais qui a redécouvert cette école bordelaise et Jean Dupas. Et donc, c'est important, effectivement, et je vous remercie de rappeler cette dette que l'on doit à Robert Coustet. Et effectivement, s'il ne nous avait pas offert ses œuvres, peut-être qu'on ne se serait pas intéressé à Dupas, il n'y aurait peut-être pas eu cette belle exposition. Voilà. aujourd'hui.
Alors, cette exposition, elle est aussi inscrite dans une saison Art déco bordelaise. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Oui, alors c'est vrai qu'on a l'habitude d'accompagner toutes nos expositions d'une programmation culturelle. On aime bien croiser, faire dialoguer les arts au musée. Et c'est vrai que l'art déco s'y prête bien. C'est un art foisonnant, pluriel, à la frontière des arts appliqués et des beaux-arts. L'art déco a irrigué toute la création artistique de l'entre-deux-guerres, a infusé toute la société de l'époque, des années 20 et 30. Et donc, cette saison art déco, il y a des concerts. Il va avoir un concert organisé avec l'opéra à la rentrée. Alors, j'ai plus toute la date en tête, mais vous pourrez trouver ça dans notre programme et sur le site internet, avec l'opéra sur les sœurs Boulanger, Lily et Nadia Boulanger, qui étaient des amies de Jean Dupas. Il y aura aussi du jazz et du swing avec le Conservatoire de Bordeaux. Ça, c'est aussi également à la rentrée. En amont de l'exposition, il y a eu aussi un défilé de mode organisé avec la Philomatique de Bordeaux. Hier soir, hommage au cinéma, il y a une projection au cinéma d'Arrêt d'essai, La Lanterne à Bègue, la projection d'un film de Sacha Guitry, Faisons un rêve, où on voit des intérieurs art déco de l'époque. Un film qui date de 1936, donc complètement contemporain. Je parlais tout à l'heure du décor de la Bourse du Travail, qui date vraiment de cette époque. Des visites aussi croisées qu'on va organiser avec plusieurs musées, notamment le musée d'Aquitaine, qui conserve et expose le décor qui avait été créé pour le pavillon de la Tour des Vins à l'exposition de 25, dont je parlais tout à l'heure, qui ne peut pas être présenté à l'exposition, parce que vous imaginez bien que déplacer ces toiles monumentales, c'est un peu compliqué, mais on va organiser des visites au musée d'Aquitaine, au musée des arts décoratifs et du design, où il y a toute une salle qui est consacrée à René Buteau, le grand céramiste René Buteau, qui était un proche ami de Dupas, et on a quelques pièces de Buteau dans notre exposition, et aussi au musée Mer Marine, notamment pour aller voir leur salle dédiée au paquebot, puisque Jean Dupas, Margot aura l'occasion de vous en parler plus en détail, mais a participé avec d'autres artistes au décor des grands paquebots transatlantiques dans les années 20 et 30. Et puis je pense aussi à des partenaires aussi fidèles, comme la bibliothèque Mériadec et les archives de Bordeaux Métropole, qui présentent actuellement des expositions en écho à notre exposition. Donc, à la bibliothèque Mériadec, ils ont sorti des ouvrages, notamment des reliures art déco magnifiques, parce que l'art déco aussi, c'est un art, bien sûr, comme son nom l'indique, profondément décoratif. Et c'est vrai que les éditeurs ont fait appel à des relieurs qui, vraiment, les reliures sont de véritables ouvrages d'art. C'est magnifique. Et aux archives de Bordeaux Métropole, il y a aussi une exposition intitulée « Dans les pas de Jean Dupas » où présente des affiches, des documents, des photographies. Alors j'oublie certainement d'autres. Et puis oui, aussi, ça c'est important de le dire, il y aura aussi un parcours dans le Bordeaux Art Déco. Je parlais de la Bourse du Travail, mais il y a aussi le stade Chabordelmas, magnifique stade Art Déco. Donc un parcours dans le Bordeaux Art Déco qu'on connaît moins, je pense, que le Bordeaux 18e, organisé par Bordeaux Patrimoine Mondial. Voilà, je pense, j'en ai sûrement oublié certains, mais ça vous donne, en tout cas, une idée de cette programmation très pluridisciplinaire qui vraiment en rend hommage à l'art déco dans toutes ses facettes, dans toutes ses expressions.
Merci. Margot, comment vous avez conçu cette exposition et quels en sont les partis pris ?
Alors, l'idée, vraiment, même l'enjeu de cette exposition, c'est véritablement la redécouverte de cet artiste. On répond vraiment à cet objectif de remettre en lumière la carrière de Jean Dupas, son œuvre dans toutes ses facettes. Et donc, ce qu'on a choisi de réaliser, c'est un parcours qui vous permet véritablement de croiser les grands événements de sa carrière, mais aussi ce qui constitue des clés de compréhension en fait de son œuvre, puisque Dupas a réalisé aussi bien des grands décors que des tableaux de Chevalet, mais aussi s'est intéressé à l'affiche, à l'illustration de mode. Donc voilà, l'idée de l'exposition, c'est, on a élaboré en fait le parcours de l'exposition à travers un discours qui est chronothématique et qui vous permet véritablement de découvrir ces différentes facettes et de remettre en lumière voilà la richesse du parcours de Jean Dupas, qui est un artiste qui a été malheureusement oublié, hein, parce que en fait, Dupas ne rentrait pas vraiment dans cette histoire de l'art moderne du XXe siècle, cette histoire qui promeut davantage les avant-gardes, voire les bohèmes. Dupas, c'est un artiste qui s'est formé à la pratique académique, qui ensuite a essayé de remettre au goût du jour la pratique académique, et surtout ensuite qui est entré véritablement à l'académie au début des années 40. Et donc voilà, il rentrait pas vraiment dans ce récit de l'avant-garde. Et donc c'est pour cette raison qu'il a été malheureusement oublié, mais qu'aujourd'hui voilà, on essaie un petit peu de le remettre au goût du jour et le remettre en lumière. Et surtout donc à travers cette exposition, mais aussi le catalogue qui vient prolonger l'expérience de visite et vient approfondir des notions qu'on aborde dans l'exposition.
Une mise en lumière de Jean Dupas, mais aussi de plein d'artistes, parce que l'expo s'appelle Jean Dupas & Co.
Oui, tout à fait. Donc effectivement, l'exposition, elle réunit plus de 200 œuvres, dont plus de la moitié, bien sûr, de Jean Dupas, puisque là, il s'agit véritablement d'une rétrospective hein, de l'artiste. Mais on a souhaité aussi le mettre en résonance, le présenter en résonance avec des artistes avec lesquels il a échangé, des artistes qui sont issus aussi bien du foyer bordelais que du foyer national hein, le foyer bordelais, on a bien sûr Buteau, Caverne, Rogano, Despujol. Et pour voilà, ce contexte plus national, on le présente aux côtés d'artistes comme Janiot, Poujon, Bourdel, qui l'a inspiré. Donc voilà, l'idée, c'est que là, on présente Jean Dupas, toute sa carrière, mais aussi près de 35 artistes qui ont évolué autour de lui, qui l'a inspiré et qui a permis de constituer voilà, toute cette tendance dont il est l'un des chefs de file durant l'entre-deux-guerres.
Et cette exposition est le fruit d'une longue enquête, en fait, pour effectivement qu'il retrace la vie et l'œuvre de Dupas, donc ça n'a pas été quelque chose de simple.
Oui, tout à fait. Et c'est vraiment là, en fait, qu'il y a cet enjeu de redécouverte. C'est que cette exposition, elle repose sur près de 3 ans de recherche menée par le musée. Le musée a d'ailleurs obtenu une bourse Frame qui a permis de poursuivre les recherches sur Jean Dupas aux États-Unis. Donc c'est une recherche qui s'effectue aussi bien sur auprès des œuvres, hein, retrouver les œuvres de Jean Dupas, mais aussi auprès des sources archivistiques, des sources photographiques. Donc voilà, l'idée c'était vraiment d'essayer c'était un véritable travail d'enquête, hein, de retrouver, renouer avec la carrière de Dupas, avec les faits historiques hein, qui ont jalonné son histoire, mais aussi les œuvres. Et donc à ce titre-là, justement, c'est pour la première fois sont réunis près de plus de 100 œuvres de Dupas, dont un tiers sont issues d'ailleurs de collections particulières et qui sont donc pour la première fois montrées au public.
On va rentrer peut-être au cœur des expositions, en tout cas sur la première salle qui sont consacrées aux années de formation, avec une double formation. Est-ce que vous nous parlez de cette double formation de Jean Dupas ?
Oui, tout à fait. Donc l'exposition, comme je vous l'ai dit, elle suit une idée, un déroulement qui est chronothématique, mais on a souhaité tout de même commencer par le commencement et inscrire Dupas dans ses premières années qui sont bordelaises, hein, puisque Dupas naît en 1882 à Bordeaux et se forme à l'École municipale des beaux-arts et des arts décoratifs auprès de Paul Quinsac, qui est son maître à l'époque, donc, dont vous voyez ici deux tableaux qui sont issus des collections du Musée des beaux-arts de Bordeaux et qui viennent en fait montrer aux visiteurs voilà, comment Dupas va venir se former formée dans cette pratique académique qui est héritée du 19e siècle. Durant ses premières années, il rentre à l'école municipale des Beaux-Arts en 1899. Et donc, il va se former à la pratique du dessin, à la représentation de l'anatomie d'après le modèle de la sculpture antique, mais aussi du modèle vivant. Il va aussi apprendre les principes de la perspective, de la composition, et tout cela pour devenir un peintre d'histoire, c'est-à-dire un peintre de la narration, en quelque sorte, pour représenter des sujets issus de la mythologie, de l'histoire religieuse ou de la grande histoire telle qu'elle était conçue à l'époque, entendue à l'époque. Et donc, Dupin va se former à cette pratique académique. Il va être reconnu comme un très bon élève par la ville de Bordeaux et donc va obtenir une bourse en 1904 qui va lui permettre de poursuivre ses études à Paris et notamment à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts où il va étudier entre 1905 et 1910. 1910, moment où il va obtenir le prix de Rome, qui à ce moment-là est le prix le plus important pour tout jeune artiste. Et surtout parce qu'en fait, ce prix-là va lui permettre de lui ouvrir les portes de la Villa Médicis à Rome. Et là, vous avez sous les yeux justement ce prix de Rome qui est exposé, qui nous est prêté par l'École nationale supérieure des Beaux-Arts à Paris, qui date donc de 1910 et qui vient témoigner en fait cette qualité de cette maîtrise académique de Dupin à travers ce sujet « L'amour vainqueur du dieu Pan », donc ce sujet mythologique. Donc là, Dupin, en fait, en quelque sorte, témoigne de sa qualité en tant que peintre d'histoire. Mais ce qui était aussi assez intéressant et qu'on souhaitait montrer dans la première salle de cette exposition était aussi la perspective décorative qui va aussi habiter ses premières années de formation, puisque Dupin, à Bordeaux, va bénéficier d'une formation en peinture décorative qui se fortifie en fait à ce moment-là, puisque l'École des Beaux-Arts va vouloir en fait encourager les artistes à avoir, ceux qui ne peuvent pas tous être peintres d'histoire ou Grand Prix de Rome, à pouvoir avoir des débouchés tout simplement dans l'artisanat. Et donc, toute la pratique du dessin que les élèves vont développer vont trouver un débouché dans ce qu'on appelle la peinture décorative, c'est-à-dire la peinture ornementale, celle qui vient orner des surfaces, des architectures. Et ce qui était très intéressant et ce qu'on a vu en fait à travers les archives, c'est que Dupin va obtenir de nombreux prix en peinture décorative pendant tout son cursus à Bordeaux. Ce qui est assez intéressant, c'est que justement, il va le mettre de côté pour obtenir ce prix de Rome, mais il ne va jamais vraiment l'oublier. Et cette pratique de la peinture décorative va véritablement l'inspirer pour la suite de sa carrière et notamment pour développer une manière qui lui est très personnelle et à ce moment-là, justement, qui va développer à Rome à partir de 1911.
Ben justement, c'est une section qui est consacrée à l'Italie. Donc finalement, c'est en Italie qu'il va développer un langage plastique très original qui lui appartient vraiment de manière très personnel, notamment le tableau L'Archer, qui est vraiment peut-être une œuvre emblématique de son style, parce que vous nous en parlez.
Oui, tout à fait. Donc Dupin va ensuite, grâce à son prix de Rome, intégrer la Villa Médicis à partir de 1911. Et l'idée, en fait, à partir de là, c'est que il va en fait avoir un séjour qui est pensionné, enfin qui est payé par l'État, dans l'objectif d'aller étudier les modèles de l'Antiquité et de la Renaissance, qui sont des modèles qui sont vraiment à la base hein, de la pratique académique. Et pourtant, c'est vraiment en Italie, dans ce temple, cette Villa Médicis, qui est le temple en fait, de la doxa académique, qu'il va développer une manière qui lui est propre et qu'il va donc s'affranchir de ce modèle académique très ancré dans le 19e siècle pour justement revenir un petit peu plus aux sources. Et donc, il va redécouvrir les modèles antiques, il va redécouvrir les modèles de la Renaissance. Et on le voit ici à travers ce tableau, l'archer qui est issu de nos collections bordelaises. Et là-bas, en fait, Dupas va, comme on le voit ici, développer en fait un univers assez onirique, ancré dans un paysage méditerranéen avec une lumière très douce, des couleurs presque pastel. Et surtout, en fait, il va regarder vers non pas les modèles de l'Antiquité classique, mais ceux de l'Antiquité archaïque. Et là-bas, il va aller étudier cette simplification de l'anatomie, cette synthèse de la ligne qui va beaucoup le marquer et qu'il va reprendre. Donc, on le voit ici hein, à travers ces figures qui sont très stylisées, presque géométrisées. Il va aussi redécouvrir, donc, comme je vous l'ai dit, les artistes de la Renaissance, notamment Cimabue ou Botticelli, qui vont beaucoup l'inspirer, notamment dans l'utilisation de ces couleurs assez franches. Hein. Et donc, à partir de là, il va développer cet univers rêvé, bucolique, ancré un petit peu dans cette antiquité classicisante. Mais il ne faut pas oublier que Dupas ne regarde pas seulement vers les sources anciennes. Et c'est l'enjeu aussi de cette salle, puisque Dupas est aussi très averti hein, dans l'actualité de l'art moderne. Et il va notamment être marqué par Bourdel, qui, en 1910, va exposer au salon de la Société nationale des beaux-arts cet Héraclès... Ici, vous avez un tirage réduit, mais l'Héraclès Archer, en 1910, qui va lui aussi, Bourdel, explorer cette synthèse de la ligne, cette construction presque architecturale hein, de l'anatomie et du corps humain. Et donc, il va être marqué par cette sculpture et il va notamment s'en inspirer pour toute cette série des archers. Hein. Il s'en inspire même presque littéralement en réutilisant ce motif qu'on va voir dans plusieurs compositions italiennes de cette période. Dupas va aussi se rappeler Maurice Denis, qui, dans les années 1910, va travailler notamment à la coupole du Théâtre des Champs-Élysées. Et on peut retrouver hein, son influence dans l'utilisation de cette peinture claire, cette Arcadie nouvelle aussi, hein, ancrée dans ce paysage italien avec les couleurs pastel. Et donc, à partir de là, Dupas va vraiment s'affranchir de ce qu'il a appris durant de nombreuses années pour développer ce style très propre, très original, qui va en fait être vraiment conçu à partir d'une recherche d'harmonie et de composition et non plus de narration. En fait, l'idée de Dupas maintenant, c'est vraiment de créer une peinture qui soit belle, qui soit presque ornementale, qui ne raconte pas forcément quelque chose, mais qui soit agréable à l'œil. Et cette nouvelle recherche, pour lui, va lui permettre en fait de venir renouveler en quelque sorte les principes académiques qui sont ceux du style, de l'idéal et aussi de l'imagination. Et donc, c'est ce qu'on essaie de présenter dans cette salle, tout en montrant aussi ce réseau de sociabilité qu'il va développer en Italie, puisque Dupas va rejoindre d'autres pensionnaires de la Villa Médicis, et notamment Lily Boulanger, donc cette compositrice qui obtient elle aussi le prix de Rome, mais aussi Lucienne Heuvelmans, qui est la première artiste femme à obtenir le prix de Rome, qui est une sculptrice et dont vous avez ici donc une œuvre qui est le buste justement représentant Lily Boulanger et qui voilà témoigne de cette sociabilité. On va aussi voir des œuvres de Robert Poujon et de Jean Despujol, qui sont des artistes qui le rejoignent un petit peu plus tard, en 1919-1920, parce qu'il faut savoir que voilà, le séjour de Dupas va être interrompu par la Première Guerre mondiale. Et ces artistes-là vont être fortement influencés par cette nouvelle manière développée par Dupas, et c'est ce qu'on essaie voilà, de montrer dans cette salle.
Oui, il crée presque un genre en lui-même. En fait, tu vois les personnages féminins dans un paysage et plein d'artistes imitent, il crée un genre.
Oui, tout à fait. En fait, on voit vraiment cette tendance s'ancrer d'abord à la Villa Médicis, autour de ces paysages paradisiaques, méridionaux, où on voit voilà, ces séries de femmes un peu types qui se multiplient, qui n'ont pas vraiment de profondeur psychologique, hein, mais qui sont comme des motifs. Et même ce bestiaire hein, qu'on va voir aussi naître là-bas à Rome, constitué donc de pigeons blancs, d'antilopes aussi et de lévriers.
Alors pourquoi ces animaux ?
Alors ces animaux, en fait, pour Dupas, vont vraiment être utilisés comme un sorte de palette de motifs, puisque pour lui, ces animaux vont être un prétexte à jouer sur les lignes, les courbes, les contre-courbes, qui va mettre justement, comme vous le voyez ici à travers cette œuvre, cette dame à la colombe et antilope qui nous est prêtée par le musée d'art moderne de la ville de Paris. Vous voyez qu'en fait, ici, l'antilope, elle vient par son élégance et son allure voilà, faite de courbes, de contre-courbes, être en écho avec cette femme qui, elle aussi, est un petit peu contorsionnée, hein, qui est utilisée presque comme un mannequin. Qu'on vient plier, qui est ondulé. Et donc voilà, il l'utilise véritablement pour jouer avec les formes, jouer avec les lignes, pour créer cette composition harmonieuse. Lui-même disait qu'il utilisait par exemple les pigeons blancs comme prétexte pour apporter des points de lumière ou des points de couleur dans ses compositions. Donc en fait, voilà, ce bestiaire n'apporte pas rien au récit, puisque Dupas ne raconte rien, mais vient voilà, présenter ses œuvres très décoratives, très ornementales. Mais toutefois, on a quand même une actualité hein, dans l'utilisation de ce bestiaire, puisque, par exemple, l'antilope, c'est un motif qui va être partagé avec d'autres artistes, et on le montre aussi dans l'exposition, notamment Janiot, ce sculpteur qui va aussi travailler, notamment dans les années 1930, au Palais de la Porte Dorée. Et on sait aussi que ces motifs sont ancrés dans ce contexte de regard exotisant, hein, en fait, ancrés dans ce contexte colonial. Et justement, on va voir ces années 20 beaucoup aussi des perruches qui témoignent aussi voilà, de cette tendance vers ces animaux exotiques utilisés de manière très décorative.
Alors, c'est une section qui s'appelle anti-moderne, classique sur chanté. Donc, est-ce qu'il était moderne ou classique?
Voilà. c'est toute l'intelligence de Dupas, en fait. Dupas va vraiment créer, et c'est ce qu'on essaie de montrer ici, un pont entre la tradition, le classique et la modernité. En fait, Dupas, pour développer son style, il va toujours multiplier les sources. Et ces sources-là, il va les piocher dans l'Antiquité. Hein, on a pu le voir avec la section sur l'Italie. Il va aussi regarder vers la Renaissance et notamment la Renaissance maniériste. Hein, il va beaucoup regarder notamment le Bronzino ou même plus tard Michel-Ange. Donc voilà, c'est un artiste qui va énormément étudier les maîtres anciens, mais il va vouloir apporter toujours cette tendance plus moderne à ses références, et notamment il va regarder vers le cubisme, notamment grâce, on pense, à son ami Roger Bissière, qui va justement en plus le rejoindre pendant un court séjour à Rome. Et on pense effectivement que c'est par Roger Bissière que Dupas va s'intéresser au cubisme. Et ce portrait est l'une des œuvres les plus emblématiques dans cette référence-là. C'est une œuvre qui est assez intéressante et assez originale en fait dans l'œuvre de Dupas, puisque c'est l'un des seuls portraits que Dupas va réaliser. Parce que dans les années 20, Dupas, lui, il va surtout développer une œuvre qui est constituée de tableaux de fantaisie, en fait, de tableaux d'imagination. Mais parce que voilà, son ambition est justement de réaliser quelque chose d'assez antinaturel, d'idéal. Et pourtant, il va s'intéresser au portrait, ici en 1924, à travers ce portrait de Léon Hubert Patas-Dillier, qui est un jeune garçon orléanais qui a 12 ans. Il va même présenter ce tableau au Salon des artistes français. Et donc, vous voyez ici en fait, comment il va... En fait, détourner l'exigence réaliste du portrait, qui est par essence voilà, un genre réaliste, en essayant de s'inspirer notamment de Ingres dans cette question voilà, de la stylisation de l'anatomie, de la géométrisation des formes. Vous retrouvez par exemple même ce poignet cassé que l'on retrouve aussi beaucoup dans des portraits de Ingres. Mais il va aussi regarder vers ce cubisme, notamment le cubisme, on peut penser à Fernand Léger, hein, dans la géométrisation notamment des membres et des différentes parties de l'anatomie pardon, de ce garçon. Et ce qui est assez intéressant, c'est que même les contemporains, hein, les visiteurs du salon, quand ils ont vu ce portrait, ont vu l'influence du cubisme. Puisque en feuilletant les journaux anciens et notamment la critique contemporaine, j'ai pu lire, par exemple, dans un article qui retraçait voilà, l'exposition et notamment ce tableau, qu'on reprochait à Dupas d'avoir réalisé cet enfant avec un cou, je cite, en tuyau de poêle.
On pense aussi à l'Empica, mais je ne sais pas si c'était une influence.
Oui, tout à fait. En fait, dans cette manière de venir concilier à la fois cette figuration des genres assez classiques comme le portrait et des références anciennes hein, comme Ingres ou même des maîtres de la Renaissance avec les artistes contemporains, notamment ce cubisme du deuxième âge des années 1910 et du début des années 1920. C'est vraiment quelque chose qui est partagé avec des artistes contemporains et notamment, comme vous le dites, Tamara de l'Empica. Et on a aussi choisi dans cette section de montrer comment, voilà, en 1920, Dupas va vraiment s'imposer comme un chef de file de cette tendance. Et on vient montrer donc au centre toute l'œuvre qui évoque ces années-là et cette manière-là donc, de Dupas, mais aussi voilà, sur les côtés de ce foyer central ici de l'exposition, on vient montrer les artistes qui ont été influencés par Dupas et qui viennent s'inscrire dans cette tendance, notamment Duco de la Haye, Jean Despujol, mais aussi Raphaël Delorme.
La section qui suit, c'est une section importante qui s'appelle le cabinet du compositeur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi avoir nommé cette section comme ceci ?
Oui, alors là, l'idée pour cette section, c'était vraiment qu'elle soit en dialogue avec la section précédente donc, qu'on a pu voir ensemble, hein, la section anti-moderne, point d'interrogation, qui présente vraiment ce style que développe Dupas dans les années 20. Et l'idée là, c'était plutôt de faire entrer le visiteur dans le cheminement de pensée, dans le processus de création de Dupas, pour vraiment comprendre en plusieurs étapes comment Dupas va élaborer ce style très original par lequel il va se distinguer. Et donc, d'abord, en invitant le visiteur à voir par des corpus de dessins comment il vient styliser le corps, comment il vient géométriser les modèles qu'il étudie, comment, par la suite, il va venir jouer avec les compositions de différents motifs, hein, d'abord les figures, les corps, mais aussi le bestiaire, comment en fait il va constituer, penser ces tableaux. Donc voilà, on voulait vraiment faire entrer le visiteur dans ce processus créatif pour vraiment faire comprendre comment, quelles sont les différentes caractéristiques du style et de la manière de Dupas.
Et c'est souvent des motifs qu'ils réutilisent dans plusieurs tableaux. Enfin, souvent, donc c'est pour ça que vous dites compositeur dans ce sens-là aussi.
Oui, tout à fait. Et parce qu'en fait, Dupas utilise tous ces motifs qu'il développe et auxquels il est particulièrement attaché. Il les développe comme une palette de motifs qu'il vient réutiliser pour créer à chaque fois ces tableaux qui sont des compositions décorative. Hein. Et en fait, Dupas lui-même se qualifiait comme étant compositeur et non pas comme étant ce peintre de la narration d'histoire. Lui-même disait que c'était en Italie justement qu'il avait trouvé sa vocation, c'est-à-dire celle de compositeur.
On va aborder un moment clé de la carrière de Jean Dupas, c'est évidemment la grande exposition de 1925. Voilà, la grande exposition à des arts décoratifs où il expose dans quatre pavillons.
Oui, tout à fait. il était vraiment important, à un moment de l'exposition, d'ancrer Dupas dans cette exposition de 1925 qui va être très importante à double titre, puisque en fait Dupas va être l'un des principaux représentants de ce style qui va se développer à travers cette exposition, enfin en tout cas qui va être très identifié à cette exposition comme étant ce style art déco. C'est vraiment en fait cette exposition qui va être à l'origine du terme art déco qu'on utilise aujourd'hui, et une exposition aussi très importante pour l'artiste puisque il expose dans non moins de 4 pavillons à ce moment-là, et il va donc acquérir en fait une notoriété très importante, aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale à ce moment-là, puisque cette exposition, il faut se rappeler à ce moment-là que elle attire énormément de visiteurs venus du monde entier. Elle accueille près de 15 millions de visiteurs, et là Dupas est représenté dans 4 pavillons, et donc on a souhaité ici présenter les différents pavillons dans lesquels Dupas va exposer. Donc la Tour des Vins de Bordeaux et du Sud-Ouest, qui est l'une des 4 tours restaurants qui est sur l'esplanade des Invalides, pour lequel Dupas va réaliser une très grande composition qui est la Vigne et le Vin, un très grand décor qui est aujourd'hui conservé au musée d'Aquitaine, qui pour des questions logistiques pratiques n'a pas pu rejoindre nos cimaises, mais qu'on présente de manière indirecte à travers cette reproduction, cette photographie ancienne qui permet de la voir dans son contexte d'origine. Il va aussi se distinguer au pavillon de la manufacture de Sèvres à travers un décor de céramique, et d'ailleurs ça va être le seul moment où Dupas va vraiment être décorateur d'objets d'art en tant que tel. Donc malheureusement c'est une œuvre qui a disparu aujourd'hui, mais dont on présente une reproduction à travers une revue ancienne. On va aussi présenter la participation de Dupas au pavillon qui s'intitule Une ambassade française, qui en fait avait pour vocation à ce moment-là à présenter les différentes possibilités d'ameublement des ambassades françaises à l'étranger. Et Dupas va occuper une très belle place, puisque dans l'un des grands salons du pavillon, et aussi à l'hôtel du collectionneur, qui est en fait le pavillon de Ruhlmann, ce grand ensemblier, ce qui, à l'époque, une sorte d'architecte d'intérieur, où Dupas va venir réaliser une composition, un dessus de cheminée pour le salon de ce pavillon de collectionneur. Et donc, il va retrouver d'ailleurs d'autres artistes qu'il avait rencontrés à Rome, notamment Janio, dont on présente de belles sculptures. Et donc, voilà, on va montrer ici cette participation très importante à travers des reproductions qui permettent de voir les pavillons qui étaient des pavillons éphémères, donc qui aujourd'hui ont disparu, mais aussi par des dessins préparatoires et des œuvres qui viennent évoquer cette participation, puisque malheureusement certaines des œuvres, donc comme je vous l'ai dit, ont disparu, d'autres n'ont pas pu rejoindre nos cimaises pour des raisons pratiques, et d'autres sont en collection particulière, sans doute aux États-Unis d'ailleurs on pense, donc et ont pas pu venir jusqu'à nous. Donc voilà, c'était quand même un moment important du discours, un moment important de l'exposition, de retracer cette participation, puisque vraiment elle permet d'ancrer Dupas dans cette histoire de l'art déco et de l'identifier comme l'un de ses principaux artistes.
Alors, je ne dis pas été un peintre décorateur, mais il était aussi affichiste et illustrateur de mode, et c'est quelque chose qu'on connaît moins.
Oui, tout à fait. On a souhaité donc à partir de là poursuivre le parcours de l'exposition à travers cette présentation de Dupas en tant que peintre décorateur, parce que il faut savoir que malgré le fait que Dupas s'est vraiment formé à une pratique très traditionnelle et académique de peintre, Dupas va à son retour de Rome, à partir des années 20, se présenter comme peintre décorateur. Il va le faire en participant à la société en étant membre de la Société des artistes décorateurs et donc à ce titre à être présent aux différents salons de cette société. Et donc il va rejoindre un réseau très prestigieux d'artistes et d'ensembliers qui vont l'identifier comme étant un peintre moderne, en ligne avec leurs propres préoccupations, hein, ce qui est justement cette expression de luxe, d'élégance qu'on retrouve dans le mobilier art déco. Et donc Dupas, à ce titre-là, va venir, va être le collaborateur notamment de Ruhlmann. Donc cela, on le présente dans l'exposition. Il va, jusqu'à la mort de Ruhlmann, participer au décor qu'il conçoit à travers des peintures, des dessins, des œuvres préparatoires aux affiches. Et surtout, en se présentant comme peintre décorateur, Dupas va s'affranchir en fait de la seule pratique traditionnelle de la peinture pour s'intéresser notamment à l'affiche et à l'illustration. Et donc, vous voyez ici notamment cette affiche pour le 15e Salon des artistes décorateurs de 1924, qui est aussi l'affiche de notre exposition et qui vient justement témoigner de cette pluridisciplinarité de Dupas, puisque là, il va répondre en fait à cette commande de la Société des artistes décorateurs pour leur prochain salon, pour annoncer leur prochain salon. Et donc, par là, Dupas va vraiment entrer dans ce théâtre de la ville, hein, ce théâtre de la publicité. Et il va venir ici en fait exprimer cet idéal de luxe, d'élégance qui est défendu par la Société des artistes décorateurs à ce moment-là. Mais toujours cette idée qui s'inscrit dans cet héritage de la tradition artistique, artisanale, qui constitue vraiment l'identité de l'art déco à ce moment-là. Et Dupas, en fait, par cette expression-là d'élégance et de luxe, va aussi attirer l'œil des maisons de mode. Et donc, il va également réaliser des affiches pour des maisons de luxe, notamment les Fourrures Max, qui, en 1927, vont notamment solliciter Dupas pour la réalisation, l'illustration d'un catalogue, voilà, qui présente en fait la dernière collection de cette maison. Et donc, il va réaliser plusieurs compositions, donc on montre notamment dans cette vitrine rouge que vous voyez, et qui étaient ces illustrations qui étaient présentées en regard d'un poème de Colette. Et à ce moment-là, ce catalogue était même reçu par la critique comme un véritable catalogue d'art. Et donc Dupas va vraiment faire évoluer, faire entrer ce style dans la publicité, et notamment pour les grands magasins et les grands magasins new-yorkais. Vous voyez par exemple dans cette image à gauche des affiches, et notamment les deux affiches à gauche qui ont été réalisées pour le grand magasin Arnold Constable, mais aussi Saks Fifth Avenue à New York, puisque Dupas va vraiment être identifié par ces maisons comme un artiste à même de présenter cet idéal assez heureux d'élégance, de luxe que voulait défendre la mode à ce moment-là. Et en fait, à ce titre-là, Dupas va vraiment être l'un de ces artisans de l'imaginaire art déco dont nous sommes les héritiers aujourd'hui.
Sur la slide de droite, vous voyez à gauche là ce tableau, la fable à la fourrure. C'est la dernière acquisition du musée, donc on est encore venu enrichir ce fond du pas, donc la femme à la fourrure qui était destinée à illustrer le catalogue de cette maison Max, hein, qui n'existe plus aujourd'hui, donc qui vendait des manteaux de fourrure de luxe pour une riche clientèle parisienne et internationale. Juste pour revenir sur les affiches, bon, on vous a dit à plusieurs reprises, c'est vrai que c'est la première exposition, la première rétrospective sur Dupas, et le catalogue est sa première monographie. Il y avait eu quand même, c'était en 87, le musée des arts décoratifs, qui ne s'appelait pas encore le MAD, avait présenté une exposition sur les affiches de Dupas, dans le cadre du mois de l'affiche, mais je crois qu'il n'y avait pas eu un de catalogue, Margot.
Il y avait seulement un livret.
Un petit livret, voilà. Bon, ça a été, le musée des arts décoratifs, quand même, il faut rappeler que ça a été le premier musée à s'intéresser à cet art déco bordelais. Je parle de cette exposition sur Dupas affichiste en 87. 10 ans plus tôt, ils avaient organisé une exposition sur le Bordeaux Art Déco. Il y a eu aussi après une autre exposition un peu plus tard, au début des années 2000. Je crois que c'était en 2008. Mais à chaque fois, ces expositions étaient surtout ciblées sur les arts décoratifs. Hein, c'était un musée des arts décoratifs qui l'organisait, sur l'architecture, et non pas sur la peinture décorative. Donc c'est en cela que notre exposition, justement, apporte de la nouveauté, parce que cette école de peinture, Dupin & Co, c'est un sujet qui avait été très, très peu traité jusqu'à présent. Mais c'est vrai que je voulais quand même rappeler ce travail de redécouverte quand même de l'art déco bordelais et quand même cette exposition sur les affiches de Dupin. Peut-être que certains parmi vous bordelais, on l'avait peut-être vu à l'époque, hein, c'était en 87. Ça remonte à plusieurs années, mais je crois que c'était bien de le rappeler.
Alors, rien ne vaut la beauté d'un mur à couvrir. C'est Jean Dupin qui a déclaré ça. Évidemment, Jean Dupin est surtout connu pour ses grands décors monumentaux.
Oui, tout à fait. C'est une partie très importante de l'œuvre de Dupin qui était véritablement incontournable pour le projet, malgré la difficulté qui est qu'on ne peut pas vraiment amener les grands décors dans l'exposition, puisque de fait, ils sont solidaires aux monuments pour lesquels ils les réalisent. Donc ici, on aborde la question de Dupin, grand décorateur, à travers des esquisses préparatoires qui nous permettent d'entrer dans ce processus de création de Dupin, qui permettent d'évoquer toutes ces commandes, ces grands décors, parce que il était nécessaire là de rappeler que en fait après cette phase de la carrière de Dupin en tant que peintre décorateur qui est très importante dans les années 20, Dupin en fait dans les années 30 va développer une vocation assez nouvelle et très importante pour lui, qui va le suivre jusqu'à la fin de sa carrière, qui est celui d'être un peintre du grand décor, un peintre du monumental. Et cela, ça répond pour lui en fait à un enjeu esthétique d'abord, puisque Dupin va y trouver un moyen en fait de renouer donc toujours avec ses maîtres anciens, notamment Michel-Ange ou même Charles Lebrun, qui va beaucoup l'influencer. S'attaquer à l'art monumental, c'est renouer avec cette histoire de la grande peinture, du décor somptuaire. Mais ça va aussi être pour lui un moyen de revaloriser aussi le rôle social de l'artiste, puisqu'il va ici s'attacher donc à des bâtiments qui sont publics, des églises, la Bourse du Travail à Bordeaux, j'en reparlerai, mais aussi des bâtiments scolaires. Et cette nouvelle vocation va permettre d'inscrire Dupin dans ce renouveau de l'art mural des années 30 et vraiment l'identifier comme l'un des plus grands artistes de l'art monumental français. Et donc, il va commencer à l'église du Saint-Esprit, poursuivre ensuite à Bordeaux, à la Bourse du Travail, jusqu'à l'œuvre qui, d'après nos recherches, est sans doute la dernière de sa carrière, qui est celle qu'il réalise pour le lycée Max Linder à Libourne, où il réalise une composition sur l'air. Et pour aborder cette question du pas peintre du monumental, on a souhaité quand même se concentrer, entrer dans ce sujet par le décor de la Bourse du Travail, et notamment La gloire de Bordeaux, qui est cette composition qu'il réalise pour ce bâtiment, qui s'inscrit vraiment dans cette politique artistique portée par la municipalité à ce moment-là, pour venir un petit peu redorer en fait l'image de Bordeaux. Il va être sollicité par la municipalité pour décorer ce nouveau palais du travail à ce moment-là, qui en fait était un lieu qui abritait les syndicats ouvriers. Réaliser des compositions à la gloire de la ville, aux côtés d'autres artistes bordelais, pour certains ayant aussi obtenu, s'étant distingué par notamment des prix à l'échelle nationale. Il va notamment ici réaliser ses décors aux côtés de Rogano, de Camille Debuzon, mais aussi de Caverne ou encore de Bégaud. Donc voilà, on présente aussi ces autres artistes dans cette section, mais c'est Dupas qui va avoir la meilleure place, puisqu'il va venir décorer la salle des conférences autour, voilà, avec cette composition dont on présente l'esquisse préparatoire qui est dans nos collections et où Dupas va représenter Bordeaux à travers ces armes ici qui sont au centre qu'il va entourer en fait de dieux de l'Olympe pour symboliser les richesses à la fois économiques et culturelles de la ville et notamment son histoire architecturale dont on peut avoir des aperçus dans l'arrière-plan. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que, et là vous avez un résumé en fait aussi de toute la conception artistique de Dupas, c'est que Dupas ne va évoquer en rien l'histoire moderne de Bordeaux. On est dans le palais du travail moderne, mais en fait, on n'indique pas ici l'histoire ouvrière parce que voilà, l'idée de Dupas, c'est vraiment ici d'inscrire Bordeaux et sa représentation dans l'éternité, en fait. Et donc, voilà, on n'a rien qui nous ramène à cette réalité sociale, mais toujours, voilà, il tend dans ses compositions par l'allégorie, inscrire ses récits, ses représentations dans une forme assez éternelle.
La dernière section de l'exposition est consacrée à son travail sur les décors des transatlantiques, qui est une œuvre enfin, très intéressante, évidemment, parce que ça va le faire connaître, notamment aux États-Unis.
Oui, tout à fait. Cette dernière section, effectivement, on a souhaité la dédiée à Dupas, décorateur de paquebots, qui vous permet voilà, d'ouvrir vers le voyage et surtout vers la renommée de Dupas aux États-Unis, où en fait, l'artiste va vraiment être identifié comme l'un des principaux peintres de l'art déco, encore aujourd'hui. Et Dupas, justement, a répondu en fait, à deux commandes très importantes pour ces deux paquebots qui sont l'Île-de-France et le Normandie. Et il faut savoir en fait, que les paquebots, durant l'entre-deux-guerres, vont être de véritables ambassadeurs hein, de l'art français et de l'ingénierie française. Ils étaient même identifiés en fait, à ce moment-là comme étant presque des chantiers royaux, des palais flottants au même titre que Versailles et Fontainebleau, et donc ils vont avoir une charge symbolique et presque politique hein, très forte. Et Dupas, pour ces chantiers, pour ces paquebots, va être identifié comme ce représentant de l'art français qu'on souhaite exporter à l'étranger. Et donc, pour l'Île-de-France, il va réaliser sous la tutelle de Ruhlmann, encore une fois, au décor du salon de thé. À travers notamment une composition inspirée d'une nouvelle de Gérard de Nerval qui s'intitule Sylvie et dont qu'on évoque à travers ce tableau de cette dame en rouge que vous voyez dans la photographie de gauche qui nous est prêtée par le Musée national d'art moderne, le Centre Pompidou et qui est déposée au Musée d'art décoratif de Paris qu'on montre aussi à travers des photographies originales anciennes. Puisque voilà, malheureusement, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que ces paquebots ont été détruits. Hein. L'Île-de-France a été détruit pour les besoins d'un film, puisqu'il a été en fait vendu en 1958 et a été détruit pour une scène de naufrage, donc pour le film Panique à bord. Voilà. Et le Normandie, lui, va subir un incendie, puis un naufrage, mais heureusement, les décors ont été déposés en amont en 1941 et ont été disséminés sur le marché américain. Et donc voilà, ce qui me permet d'évoquer le travail de Dupas au Normandie, pour le Normandie, qui est ce grand paquebot qui était le plus prestigieux hein, de la flotte mondiale à ce moment-là. Et Dupas va être sollicité pour le décor du lieu le plus important, le foyer mondain du paquebot, qui est le salon central, le grand salon, dans l'idée Selon l'idée des architectes qui étaient Bouwens, Van der Boyen et Roger-Henri Expert, un autre architecte bordelais, dans l'idée de vraiment faire revivre, de faire ressusciter les grands décors baroques, dans l'idée presque de la galerie des glaces de Versailles. Et donc Dupas va réaliser des compositions monumentales sur l'histoire de la navigation, qui va en fait être un décor qui va couvrir 400 mètres carrés de murs à ce moment-là. Donc, il réalise 4 compositions qui vont être transcrites en panneaux de verre peint par un maître verrier du nom de Jacques-Charles Champignol et qui donc va créer toute cette ambiance très luxueuse, monumentale, qui va habiller l'ensemble de ce salon, ce foyer mondain. Et il va aussi réaliser une composition qui va être transcrite en lac par Jean Dunan pour les portes de ce salon et qu'on peut malheureusement pas évoquer directement hein, pour ces portes qui sont conservées à New York, mais qu'on vient montrer à travers notamment des exemples de lacs qui nous sont prêtés par le MUMA du Havre et par le musée de La Rochelle et qui vient restituer dans cette salle cette ambiance très luxueuse, cette élégance à la française qu'on allait exporter à l'étranger. Et Dupas était l'un de ses principaux artistes, l'un de ses principaux représentants de l'art déco. Et c'est son travail dans les paquebots qui va l'amener à être identifié comme justement l'un des principaux représentants de cette tendance art déco qu'on revit un petit peu aujourd'hui à travers de cette actualité autour cette grande tendance.
Il faut savoir que ce dessin, quand vous irez voir l'exposition, on espère que vous irez voir l'exposition, est un dessin mais monumental qui est aux dimensions, je crois, originales du panneau. Enfin, je ne sais plus les dimensions en tête, mais c'est.
C'est effectivement un dessin monumental qui est pourtant en dimension réduite par rapport. Ouais, donc ça vous donnera une idée de l'échelle monumentale de ces décors. C'est un dessin préparatoire qui fait près de 6 mètres de long sur 4 de haut. Donc
C'est un prêt exceptionnel et on remercie le musée du Havre parce que les dessins déjà sont fragiles. C'est un dessin qui est roulé dans leur réserve et on a été vraiment très très heureux qu'ils nous le prêtent, comme le musée de la Marine à Paris qui nous a prêté un panneau de verre églomisé donc réalisé avec la collaboration de ce maître verrier. Aussi, là, le prêt n'était pas été simple à négocier, mais il se trouve qu'on avait prêté des œuvres au musée de la Marine pour une autre expo. Parfois, ça se passe comme ça, on négocie. Mais ce sont des œuvres extrêmement fragiles. C'était important pour nous quand même de montrer ces œuvres, d'autant plus que les autres fragments de ces panneaux en verre soit ont été perdus, soit sont conservés dans des collections américaines. Et qu'on a fait le choix de ne présenter que des œuvres venant de collections nationales. Mais comme vous voyez, près de 200 œuvres, comme vous le rappelez, Margot, on avait de quoi faire, on avait suffisamment dans nos collections privées et publiques en France.
C'est une exposition riche de dessins, de peintures, de maquettes, qui est ouverte à tous les publics. Il y a des dimensions, effectivement, que vous avez effectivement développées au sein de l'exposition.
Et c'est important, on essaye maintenant d'intégrer vraiment de la médiation au cœur de nos expositions, même si indépendamment, on organise des visites, des ateliers, mais d'avoir vraiment des espaces dédiés aux enfants, aux familles. Il y a d'ailleurs des cartels qui sont d'ailleurs placés à hauteur d'enfants. Pour les enfants, pour les familles. Il y a cette fresque-là participative. Vous voyez que les enfants s'en donnent à cœur joie pour colorier cette frise. Un espace aussi de lecture, donc une collaboration aussi avec la bibliothèque Mériadec qui nous a prêté ses ouvrages, ses BD. Donc ça permet aussi de se ménager un temps de pause aussi dans l'exposition et de consulter ses ouvrages et puis d'autres jeux qu'on vous invite à découvrir et à venir en famille, avec vos enfants, petits-enfants.
Vous pourrez aussi prolonger la visite. C'est vrai que je ne l'ai pas évoqué dans cette difficulté de ne pas pouvoir présenter les grands décors originaux de Dupas. On a aussi souhaité venir contourner cette difficulté à travers un projet qu'on a mené avec l'Université Bordeaux-Montaigne, et les étudiants des métiers du multimédia et de l'Internet pour réaliser une carte interactive dans laquelle vous pourrez venir explorer les grands décors de DUPA en France et à l'étranger à travers une table tactile qui est justement présentée dans la section des grands décors et qui vous permet, voilà, à travers des images d'archives, puisque certains ont disparu, mais aussi des images contemporaines, des œuvres conservées, explorer les grands décors de DUPA. Cela a justement été réalisé à travers, grâce à un travail de recherche qu'on a mené pour retrouver ces grands décors dont on a fait l'inventaire et que vous pourrez voir donc à travers ce module de médiation.
On peut évoquer aussi le colloque. Alors là aussi, excusez-moi, j'ai plus la date en tête. Je sais que c'est en novembre, un colloque international organisé donc en partenariat avec l'Université Bordeaux-Montaigne et la Villa Médicis à Rome, sur justement ces grands décors à travers justement cette tradition académique, mais réaffirmée, réinventée. Donc on voyagera là aussi entre Bordeaux, Paris, l'Italie, bien sûr, jusqu'à New York. Et c'est un colloque qui se tiendra donc à la bibliothèque Mériadec au mois de novembre. Voilà, donc on vous invite aussi, si vous voulez prolonger justement cette réflexion autour de l'art déco et surtout de ces grands décors, voilà, on vous invite à venir assister à ce colloque qui promet d'être passionnant et riche aussi en découverte. Voilà.
Vous pouvez aussi prolonger vivement l'exposition par ce magnifique catalogue avec de nombreux contributeurs et vous allez découvrir plein d'articles qui vont aborder des sujets dont on n'a pas parlé, des relations de DUPA avec Janiot, par exemple, ou d'autres avec le docteur Moore. Enfin, vous allez apprendre plein de choses, mais on n'a pas pu évoquer, effectivement.
Oui, tout à fait. En fait, là, ce catalogue répond aussi à cet enjeu de découverte, puisqu'il s'agit de la première monographie réalisée sur l'artiste. Évidemment, cet ouvrage se fait l'écho de l'exposition, mais surtout, elle vient approfondir l'ensemble des notions qu'on vient aborder, les différentes phases de sa carrière. Elle vient aussi approfondir certaines relations, certaines amitiés qu'il a pu avoir avec d'autres artistes, notamment Bissière, Janiot, Ruhlmann. Donc là, l'idée, c'était vraiment d'avoir un ouvrage de référence sur l'artiste qui permettait de faire le point sur sa carrière et sur son œuvre du début jusqu'à la fin, si je puis dire, puisque vous trouverez aussi les repères historiques à la fin. Le catalogue vous permet aussi, grâce à des reproductions en haute définition, de voir également les grands décors qu'on n'a pas pu amener dans l'exposition, mais qui sont intégrés dans plusieurs articles, plusieurs essais, et qui vous permet de les analyser et de les voir au mieux.
Ben merci, j'espère que ça vous donnera envie de voir cette magnifique exposition. Merci à tous.